Delroy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère, ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.
Zone B, la poupée de Satan de Ferruccio Casapinta. Alors par quel prisme analyser une telle aberration filmique, plaisir coupable aussi jouissif que fondamentalement idiot? Il n'est en aucun cas dans l'intention de se moquer d'une œuvre, non pas bâclée, mais constamment parasitée par des idées de mise en scène incongrues, au point de penser que derrière la caméra se dissimule une sorte d'excentrique peu soucié de cohérence et de réalisme. Alors c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, le metteur en scène officiellement crédité, Ferruccio Casapinta, pourrait être un prête-nom tant les informations sur son compte se résument au néant. Que nenni, il existe bel et bien, mais sa présence serait aussi évanescente et ridicule que le fantôme qui hante les lieux du film. D'ailleurs, l'actrice principale ne s'est pas gênée dans une interview de traiter le cinéaste coupable de ce seul méfait de parfait idiot. Alors qui est véritablement l'auteur de ce film? L'implication du chef opérateur s'avère la piste la plus probable compte tenu de la qualité visuelle du film, en dépit de certaines fautes de goût, notamment des filtres roses sur les plans du château. Mais si Francesco Atteni, donc le chef-op, n'a qu'un long métrage et quelques documentaires à son actif, il semble plus compétent pour mener à terme un projet iconoclaste qui ne peut que séduire les amateurs de bisserie décalée. La poupée de Satan, titre fidèle à l'original mais fantaisiste puisque nul Satan n'apparaît à l'écran, est vaguement une poupée tenue par une pensionnaire devenue complètement débile. Démarre donc dans la plus pure tradition des giallo à tiroir sur fond de machination, tournée à la fin des années 60 tels que Paranoia d'Umberto Lenzi ou l'adorable corps de Deborah de Romolo Guerrieri. Alors du cinéma d'exploitation, hein, fortement inspiré par certaines mécaniques hitchcockiennes, mais surtout par les diaboliques chefs-d'œuvre de Clouseau, dont on ne mesure pas toujours l'influence qu'il a eue sur tout un panel du cinéma populaire. Elisabeth, donc, hérite de son oncle décédé. Elle se rend dans le sud de la France. Alors tout est tourné en Italie, pas très loin de Rome, et pourtant il ne s'agit nullement d'une coproduction. Donc elle se rend dans le sud de la France pour la lecture du testament, accompagnée par son fiancé, Jack, un journaliste toujours l'œil fouineur et alerte, ainsi que d'un couple d'amis. Elle se retrouve alors en possession du château majestueux de Bel Janone, propriété jalonnée de terres immenses. Alors sur les lieux, elle fait la connaissance de la gouvernante, l'air strict, dont on devine derrière ses lunettes un sex-appeal débordant, qui prétend que l'oncle d'Elisabeth souhaitait mettre en vente le château. De plus, une malédiction ancestrale semble planer sur les lieux. La nuit tombant, Elisabeth, entre deux rêves érotiques, gratuits mais agréables pour se rincer l'œil, est la proie de terribles cauchemars dans lesquels un homme masqué la torture dans les catacombes. Alors pour corser le tout, une espionne, tout droit sortie d'un James Franco, fouine dans le château pour une raison que l'on ignore, mais qui pourrait s'avérer capitale pour le maintien de l'équilibre terrestre. Bon, j'exagère un petit peu là. Le scénario qui, sans trop s'avancer, a dû être retouché, écrit et réécrit sous psychotrope ou parfois totalement improvisé, part dans toutes les directions, cumule les invraisemblances, mélange les gens avec une telle candeur que l'on peut ne peut que prendre un plaisir fou à suivre ces aventures qui débutent donc comme un giallo, se poursuit comme un film gothique avec un léger parfum de surnaturel, continue sur la lancée sur la comédie un peu absurde, mais involontaire, et se termine comme il peut, résolution fantasque à l'appui, anticipant alors les épisodes les plus insolites de Scooby-Doo. Alors non, objectivement, la poupée de Satan n'est pas une réussite, mais il règne une atmosphère délicieuse, rappelant surtout les crimis allemands, ces adaptations délirantes des romans d'Edgar Wallace, l'humour, on va dire, volontaire du moins en moins. Ce thriller charnel et désuet vaut moins pour son ensemble que pour ses parties isolées. La musique, parfois en décalage avec l'action, mélange sonorité électronique et d'envolée jazzy, elle est sublime. La présence de la Mimi Erna Surer, de son vrai nom Emma Constantino, aperçue dans la Salamandre notamment, ravira les érotomanes qui se délecteront de ses apparitions légèrement dénudées. Et la photographie magnifique sait mettre en valeur un décor gothique soigneusement confectionné. Alors la poupée de Satan nous plonge en plein âge d'or du cinéma bis italien, où même les productions les plus improbables et fauchées parvenaient à distiller un vrai désir de cinéma et pourquoi pas une envie d'y retourner. Un conseil néanmoins, ne faites pas attention au générique conçu sous forme de roman photo, délivrant en moins d'une minute tous les rebondissements du film. Voilà, le chat qui fume, l'éditeur propose, comme à son habitude, un combo DVD Blu-ray séduisant, bénéficiant d'une copie splendide, surtout pour une production aussi obscure, avec une intervention de Francis Barbier, livrant quelques réflexions et anecdotes croustillantes autour du film. Avec en bonus, pour les mélomanes, la piste sonore isolée, permettant d'apprécier non seulement la musique, mais aussi le film débarrassé de ses dialogues frisant souvent l'absurde.
Kilderoy, nous allons faire un film fantastique.
Depuis Garbo, les actrices ont gardé ce mystère et ont gardé quelque chose de vraiment à elles, une personnalité.
Je crois que c'est pour ça que des milliers de gens aiment le cinéma, pour s'oublier eux-mêmes dans l'émotion due à la contemplation d'un groupe.